Différente de celle d'Israël est assez rare dans l'histoire. On se souvient de 1956 où Eisenhower avait mis un terme en quelque sorte à l'expédition anglo-franco-israélienne de Suez, qui était évidemment soutenue par Israël, et ça c'était une première rupture. Ensuite, il y avait eu au début des années 80 la vente d'armes américaines à l'Arabie Saoudite. Et plus récemment, mais c'était quand même il y a une vingtaine d'années, au lendemain de la guerre du Golfe, il y avait eu des tensions très franches entre le président Bush père et Israël, lorsqu'Israël avait déclenché son programme de colonisation de la Cisjordanie. Et le président Bush père avait décidé pendant un certain temps de geler l'octroi de crédit à Israël. Et il faut se souvenir que, à la suite de cette décision, des gens qui votaient pour les Républicains et pour Bush avaient décidé de basculer du côté démocrate et du côté de Clinton, et qu'on avait estimé que l'élection de Clinton était en partie le produit du mécontentement des amis d'Israël qui avaient décidé de sanctionner le président sortant qui avait eu l'audace de prendre position contre le gouvernement israélien. Donc, premier adversaire, vous avez Netanyahou. Deuxième adversaire, le lobby israélien aux États-Unis. Troisième adversaire, les ultra-conservateurs iraniens. Il faut dire que pour eux, d'une certaine manière, leur identité et leur puissance sont liées à l'hostilité aux États-Unis, à ce qu'ils appellent le grand Satan. Pour les États-Unis, du temps de Bush fils, l'Iran, c'était l'un des pays qui faisait partie de l'axe du mal. Mais évidemment, pour l'Iran, les États-Unis, c'est l'adversaire numéro un avec Israël. Et on peut se demander ce qu'il resterait du pouvoir de ces faucons iraniens en cas d'allègement des tensions avec Washington. Donc vous avez ça comme troisième adversaire, et puis quatrième adversaire, qui n'est pas négligeable et qui est presque aussi important que les autres, l'Arabie Saoudite et les États du Golfe.
Qui ont la même politique que celle de Netanyahou.
Sur ce plan, oui, ils ont la même hostilité à l'Iran, et ils détestent l'idée que les États-Unis, qui ont été leurs protecteurs depuis des décennies, se rapprochent de leur adversaire chiite de surcroît.
Tout ça, ça tourne autour de la Syrie quand même.
Voilà. Déjà, justement, d'autant que déjà l'Arabie Saoudite et les États du Golfe n'avaient pas apprécié que Obama, en quelque sorte, arrête l'opération de bombardement de la Syrie au dernier moment où ils pensaient que ça allait être lancé. Et là, ça fait deux fois de suite que leur grand dessein, d'une part, une guerre en Syrie avec les États-Unis, la France et le cas échéant le Royaume-Uni. Et là maintenant, une opération militaire pour liquider le programme nucléaire iranien. C'est la deuxième fois que Obama leur fait faux bond. Donc pour eux, c'est un vrai problème. Et ils sont en train de se demander si la moindre dépendance énergétique des États-Unis, du fait du gaz de schiste, du pétrole de schiste et des ressources naturelles que les États-Unis développent, ne fait pas que les États-Unis acquièrent en quelque sorte une marge de manœuvre supplémentaire qui leur permet de dire non à leurs alliés de toujours, comme l'Arabie Saoudite. Alors peut-être qu'il faut dire que dans la position israélienne, il y a quand même un paradoxe, parce que il y a un État nucléaire dans la région, déjà, c'est Israël.
Oui, quand même.
Voilà. Donc, qui ne veut pas qu'il y ait d'autres États.
C'est une puissance nucléaire voilà. Formidable.
Et c'est un État qui, en plus, n'a pas signé le traité de non-prolifération que l'Iran a signé. Et enfin, Israël est à ce jour l'État qui a violé le plus de résolutions des Nations Unies. Donc, voir Netanyahou, en quelque sorte, en défenseur du droit international qui s'inquiète de la prolifération nucléaire, alors que lui-même dispose de l'arme atomique et n'a pas signé, en tout cas que son pays n'a pas signé le traité de non-prolifération, c'est un paradoxe. Alors, évidemment, cet accord reste fragile, on l'a dit, c'est un accord intérimaire de 6 mois, et on assiste déjà à une guerre des communiqués entre Washington et Téhéran. Washington expliquant, pour essayer de justifier l'accord auprès de son opinion publique et du Congrès, en tout cas c'est la position d'Obama, que c'est les États-Unis qui l'ont emporté, que l'Iran a dû renoncer à son programme nucléaire, et aussitôt les durs iraniens qui disent « Vous voyez, on dit que c'est nous qui avons renoncé à notre programme, donc c'est un mauvais accord et il faut le faire échouer ». Et en quelque sorte, les prises de position des faucons de chacun des camps alimentent le risque que cet accord n'aboutisse pas. Déjà, il faut voir que dans la presse américaine, parce qu'on parle beaucoup des proclamations un peu démesurées et extrémistes de l'Iran, mais dans la presse américaine, on lit des choses qui sont assez stupéfiantes. Je relevais pour cette émission là ce que dit le Wall Street Journal, qui est quand même le quotidien numéro un par la diffusion aux États-Unis. Et je cite « La capitulation de la France et du Royaume-Uni à Munich devant l'Allemagne nazie a longtemps été jugée synonyme d'ignominie morale et diplomatique. Pourtant, ni Neville Chamberlain, ni